France Culture.
Et la radio ? Ils disent que la guerre est bientôt finie.
Encore ?
C'est tout ?
C'est tout, oui.
C'est une façon de vivre, soldat, c'est pas juste un métier. C'est austère, la camaraderie.
C'est une vocation.
C'est mieux si c'est une vocation.
En fait, on forme pas nos soldats, on forme nos futurs fers d'armes.
Mon lieutenant, faut manger pendant que c'est chaud.
Tu vas vivre des expériences et faire des choses que tu ne referas plus jamais. Tu n'auras jamais l'occasion de faire ailleurs.
Repos.
Sortir du civil et rentrer du jour au lendemain dans l'armée, c'est un nouveau monde. Hein.
Trompez les rangs.
Colonel Jean Michelin, être militaire, c'est un métier comme un autre.
Non, pas du tout.
Évidemment, quand on s'engage dans l'armée, on sait qu'a priori, c'est pour faire la guerre, en fait. C'est pas pour remplir les tableaux Excel aux Invalides.
C'est un métier extraordinaire au sens littéral, c'est-à-dire qu'il sort de l'ordinaire.
J'aurais rêvé d'être militaire, par Adrien Mora et François Test.
À vos ordres, commandant !
Premier épisode, se rêver soldat. Je suis né en 1989, 15 jours après la chute du mur de Berlin. Pour la guerre froide, c'était le début de la fin. Trop jeune pour me souvenir de la première guerre du Golfe ou de celle d'ex-Yougoslavie, j'ai grandi avec l'idée que la guerre était une chose du passé, qui n'a sa place que dans les livres d'histoire. Je l'ai su dès l'âge de 6 ans, je ne ferai pas de service militaire. Et pourtant, je fais partie d'une génération qui a beaucoup fait la guerre, sur un écran d'ordinateur ou avec une manette de PlayStation. Je me suis imaginé soldat en tirant des milliers de balles dans Medal of Honor. J'ai déplacé des régiments dans le monde entier en jouant à risque. Et je me suis rêvé en héros en regardant des films de guerre hollywoodiens comme des milliers d'adolescents. Certains d'entre nous sont devenus soldats et ont combattu pour de vrai. C'est le cas de trois camarades de ma classe de seconde que j'ai connus en 2002 au lycée Jean Mermoz de Montpellier. J'ai retrouvé Gadiel et Rémi, mais également Jonathan, Timothée, Émilie Guillaumin, Jean Michelin et Laetitia Saint-Paul, des militaires de cette même génération. Qu'est-ce qui les a poussés à devenir soldats? C'est quoi la vie d'un militaire? C'est quoi la guerre? Tout débute à Épinal où je retrouve Gadiel, que je n'ai pas vu depuis 20 ans. Il est en uniforme avec son béret bleu et me dépasse toujours de deux têtes. Ça, ça n'a pas changé.
Bah, ça va.
20 ans ont passé, quoi.
Ah ouais.
Et te voilà, faut t'appeler capitaine maintenant.
Oui.
Ça a changé. Donc, je suis le capitaine Gadiel. Je suis marié, j'ai trois enfants. Et je me suis engagé dans l'armée en 2008. Ici, au 1er régiment de tirailleurs, le soldat est appelé tirailleur quand il n'a pas encore de galon porté sur la poitrine. Ensuite, il passe soldat de première classe. Son premier grade, c'est le grade de caporal, pour arriver jusqu'à caporal-chef. Ensuite, on arrive dans la catégorie des sous-officiers, qui commence par le grade de sergent, pour ensuite passer sergent-chef, adjudant, adjudant-chef, puis major. Ensuite, on arrive chez les officiers, avec les grades d'aspirant, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine. Et ensuite, la partie officier supérieur commence au grade de chef de bataillon, donc commandant, lieutenant-colonel, colonel, puis officier général. Donc moi, je commande une compagnie de combat dans un régiment d'infanterie et j'ai aujourd'hui sous mes ordres un peu plus de 150 soldats.
Donc moi, je suis Rémi, j'ai 37 ans. J'ai été dans l'armée de 2007 à 2012. C'était des contrats de 5 ans à l'époque, on appelait ça EVAT. Engagé volontaire de l'armée de terre. Donc je suis rentré au 27e bataillon de chasseurs alpins, chasseur de deuxième classe. Quand j'étais enfant, oui, je rêvais d'être militaire. Ouais. J'adorais les séries, les films de guerre avec des soldats, les moments de camaraderie, les moments d'instruction, tout ça. J'adorais cet univers-là. C'était le côté humain qui me plaisait. C'est pas le côté guéguerre, les pistolets, tout ça. C'était surtout le côté humain, l'expérience humaine de camaraderie qui était transposée dans les films ou les séries qui m'attirait.
Que t'as des souvenirs de films ou de séries ou de jeux vidéo qui sont marquants pour toi?
Ouais, je me souviens de la série Band of Brothers. Il y a un film que j'avais beaucoup aimé, un vieux film français. C'était la 317e section. C'est un vieux film, c'est en noir et blanc, hein. Et ça, c'était un super film, ouais, j'avais beaucoup aimé.
Un fumigène, ils règlent leur mortier. Pas mal. La suite, c'est pour nous. Allez, on les laisse là et on aura encore de la veine si on s'en sort.
Adjudant, vous dites donc. Nous partons avec les blessés. Coute reste en couverture et c'est tout. C'est un ordre.
Il y a un film américain qui est bien fait, c'est Jared. Jared avec Jake Gyllenhaal. Sur, c'est des Marines qui passent leur temps à attendre dans le désert qu'il se passe quelque chose. C'est assez proche de l'expérience qu'on avait vécue en Afghanistan où en fait 95% du temps il ne se passe rien et c'est de la routine. Les gens, il y en a qui se prennent la tête avec les copines en France et qui ça, c'était assez similaire à Jared où il y avait beaucoup de prises de tête et tout et au final assez peu d'action par rapport au temps passé sur place sur le théâtre. Et il y a un film qui est bien fait aussi, je trouve, sur la... Mais ça va moins plaire aux officiers. C'est le film Les Sentiers de la Gloire, avec Kirk Douglas, de Kubrick, je crois, où des officiers, en fait, priorisent leurs ambitions personnelles sur les hommes. Et ça, malheureusement, c'est... Je vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est des choses, quand même, qui se retrouvent, quand même, dans l'armée... On avait tendance à dire que l'armée française, c'est une armée faite par les officiers, pour les officiers. Et c'est quelque chose qui se... malheureusement, qui se ressent un petit peu.
Je suis le colonel Jean Michelin et je suis actuellement le chef de corps, le caïd, comme on l'appelle, du 1er régiment de tirailleurs à Épinal.
Et comment, Jean Michelin, enfant, votre image de soldat s'est formée à travers des œuvres culturelles ?
Ma découverte du métier des armes s'est faite par le prisme culturel et historique, c'est-à-dire par la lecture, par le cinéma. Un film qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais enfant, c'était Un pont trop loin. Et quand j'ai envie de faire la blague, j'ai tendance à dire que la vocation... de mon service des armes est lié pour moitié à des nanars odieux type Rambo 3 et à des documentaires, et notamment un documentaire que j'avais découvert quand j'avais 11 ou 12 ans sur une promotion de Saint-Cyr auquel je n'avais strictement rien compris. Mais j'avais trouvé le milieu, l'univers absolument passionnant. J'ai compris, je pense, assez vite qu'il y avait deux choses qui étaient centrales dans mon engagement et autour desquelles j'ai construit, je pense, une bonne partie de ma carrière. C'était d'abord la volonté de servir, de faire quelque chose qui soit désintéressé, de mettre au service d'une cause qui soit plus grande que moi, et la volonté de me confronter à la matière humaine. Moi, j'ai pas du tout eu d'appétence technique pour le métier. C'était vraiment les gens, et c'est resté les gens qui m'intéressaient. Ce qui explique sans doute d'ailleurs pourquoi est-ce que j'ai choisi de servir dans l'infanterie, qui avant d'être un système d'armes, est surtout un système d'hommes.
Quel métier tu rêvais de faire quand tu étais enfant ?
Donc, mon père était fonctionnaire. Il a évolué de directeur de cabinet, sous-préfet, et fini... préfet chargé de mission. Bon, pourquoi pas cette voie-là. Ma mère était avocate, j'aimais bien parler, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas non plus. Et la bascule pour moi, ça a été en début d'adolescence, en regardant un reportage sur le 13e RDP, donc le 13e Régiment de Dragons, qui est une unité de force spéciale, où je vois un mec complètement camouflé, avec un fusil, qui marche dans une espèce de rivière, enfin un petit cours d'eau. Et ce qui me marque, c'est ce soldat en train de s'infiltrer, son équipement, la préparation, l'hypervigilance dans laquelle il est, en train de regarder, mesurer chaque pas. Et après, il y a j'imagine le chef du petit groupe qui leur donne des ordres, sans un bruit. Chacun va faire ce qu'il a à faire. Et je me dis, ok, moi c'est... Un, je veux être le mec là qui est en train de s'infiltrer et qui est capable d'être en hypervigilance, de tout voir, un peu comme une série Sentinelle, à l'époque, The Sentinel, hein, que le mec qui avait des sens hyper développés, qui entendait loin, qui voyait loin. Voilà, je veux devenir ce super-homme, quoi, qui va au bout de ses capacités physiques, mais je veux surtout être celui qui commande des super-mecs et qui lui-même en est un. Et c'est à partir de là, avant la fin du reportage, je me revois me relever du canapé, aller voir mes parents et dire voilà, ouais, je veux être militaire.
Alors Rémi, en 2003, tu arrives au lycée Jean Mermoz, c'est là où on se rencontre, avec Gadiel, bienvenue aussi, et d'autres. Quand tu arrives au lycée Jean Mermoz, tu sais déjà que tu veux faire militaire ?
Oui, je sais que je veux, à ce moment-là de ma vie, je sais que je veux m'engager. Je sais que je veux m'imposer service militaire, et en fait, si tu veux, j'ai 15 ans à l'époque. Je passe le temps. Maintenant, je passe le temps jusqu'à ce que j'ai 18 ans. Donc,
Et tes parents, ils réagissent comment à cette volonté de...
Je pense qu'ils y croient pas trop. Parce que, ils se disent, c'est une lubie, tu vois. Ça va lui passer. Comme parce qu'eux, ils sont pas du tout branchés univers militaire. Donc, ils comprennent pas trop.
Ils font quel métier c'est...
Ma mère est infirmière. Et mon père est ingénieur. Ils y croient pas trop.
T'en parles au lycée avec Gadiel, par exemple?
Oui, Gadiel, c'était... je lui disais à l'époque que je voulais être parachutiste légionnaire. Je voulais aller à la Légion étrangère, à l'époque et tout. Avec Gadiel, on s'appelait les paralégionnaires, c'était un peu notre truc. On voulait faire des missions commando, des fois on voulait passer par un mur au lieu de passer par l'entrée, donc on se faisait la courte échelle pour grimper sur un... Je me souviens, une fois on était rentré à Joffre, au lycée Joffre qui était en face, mais qui était plus contrôlé que Mermoz à l'époque, parce qu'à l'époque le lycée Mermoz en 2003, c'était extrêmement facile de rentrer quand on n'était pas du lycée. Joffre, c'était plus contrôlé. Joffre, il y avait des pions qui vérifiaient les cartes d'identité, les cartes de scolarité, tout ça. Donc on se faisait des missions comme ça, on va aller à Joffre, on va rentrer, genre un truc commando, quoi.
Jacques Chirac, 22 février 1996.
Le service militaire a été créé en 1905, comme vous le savez.
Oui.
À une époque où il fallait des poitrines à opposer à d'autres poitrines, si j'ose dire, face à un danger extérieur. Cette époque est complètement révolue. Nous n'avons plus besoin d'appeler de gens faisant leur service militaire.
C'est donc la fin d'une époque, la fin du lit au carré, la fin des Rangers bien briqués, des blagues de chambrée, des « oui mon capitaine, bien mon adjudant », la fin des 30 au jus brandis comme une victoire, des 0-0-0 chantés dans d'interminables soirées Cronenbourg. Jacques Chirac l'a annoncé hier soir à la radio et à la télévision, la conscription, c'est-à-dire le service militaire obligatoire, sera supprimée.
Soir 3, 23 février 1996.
Toi, tu penses qu'il faut garder le service?
Oui.
Obligatoire pour
quoi, quoi? Bah, c'est ouais. Bien. Hein. Bah, ouais, bah, s'il y a la guerre, tu te défends, moi. Tu restes pas dans ton lit à te cahier.
On sera des hommes, on apprendra à se battre.
Mais ce qui est chiant, c'est qu'on doit
se... On apprendra à se débrouiller tout seul.
Ce qui est chiant, c'est qu'on doit se faire la boule à zéro.
Timothée, je suis un ancien militaire. J'ai 41 ans. J'étais engagé dans les chasseurs alpins au 27. Et maintenant, je suis entrepreneur.
On est en 96, oui. Jacques Chirac annonce la fin du service militaire. Toi, tu as quel âge et tu en penses quoi à l'époque?
À l'époque, je ne me rendais pas compte, j'étais petit. Il y avait pas mal de gens, surtout la génération de mes parents, qui étaient plutôt contents. Mais non, la guerre, l'armée, on décidait des choses, on ne parlait pas spécialement à la maison, ce n'était pas les sujets, quoi. Ils étaient agriculteurs, on parlait beaucoup du travail.
Et toi, à l'époque, quand t'es enfant, adolescent, l'armée, la guerre, c'est quoi ton image de soldat, par exemple?
C'est plus, on va dire, quelque chose d'un peu épique. Un aventurier qui est prêt à combattre pour son pays, pour des valeurs que son pays aussi représente. Ouais, le côté aventure.
Sans qu'on me conditionne, mais c'était un peu dans ce qu'on m'avait expliqué, quoi. Ouais, tu iras à l'école, puis tu iras au collège, puis tu feras ton lycée, tu feras ton service, puis après tu feras des études, tu travailleras, quoi. Donc c'était dans mon cursus, quoi. C'était tracé depuis que j'étais petit. Donc moi, j'avais l'impression qu'on, tu vois, bah, pourquoi ça change, quoi. C'est-à-dire que c'était pas bien avant,
Bon, donc une petite partie d'incompréhension. Et autour de moi, effectivement, les réactions plus mitigées. Certains heureux, d'autres... tiens, c'est dommage, je vais rater une expérience. Je vais rater quelque chose dans mon... Ce qu'on pouvait entendre à l'époque dans mon passage d'homme, quoi, dans ma vie d'adulte.
Faites un plaisir d'aller au service militaire. Chacun sait qu'à 20 ans, on n'a rien d'autre à faire. Que c'est le pied de marche comme un métronome. Que c'est la discipline qui vous fait un homme. C'est sur le quai de la gare, un festival de mouchoirs. Au revoir, au revoir, c'est le chant du départ. Et va, petit soldat.
Bénédicte Chéron, vous êtes historienne. Le 22 février 1996, le président Jacques Chirac annonce la suspension du service national. Est-ce que c'est une surprise ?
Il faut quand même avoir en tête que depuis les années 1960, les ministres successifs savent bien que le service militaire universel obligatoire ne pourra pas continuer de fonctionner comme il a fonctionné dans la première partie du XXe siècle, parce que la dissuasion nucléaire a en fait profondément transformé le modèle de défense français. L'idée qu'on a moins besoin d'exposer une armée de masse à nos frontières pour protéger le territoire, c'est vraiment ancré dans le modèle des défenses français. Et puis par ailleurs, il y a une modernisation des équipements, une modernisation des armements. Et on est aussi, il faut en avoir conscience, dans un contexte de contraintes budgétaires. Et même si ça n'est pas du tout annoncé sous cet angle-là, en fait, entretenir des classes d'âge d'appelés, en fait, les entraîner, ces classes d'âge d'appelés, dans de bonnes conditions, c'est extrêmement coûteux. Et donc, il y a un petit calcul qui est fait qui montre que finalement, pour un coût équivalent ou un peu inférieur, on peut faire vivre une belle armée professionnelle. On a tendance à penser, parce que c'est une vision qui est très politique du service militaire, que le service militaire a fabriqué de la cohésion nationale en France et qu'il en a fabriqué tant qu'il a existé. Or, toute l'histoire du service militaire, déjà dans l'entre-deux-guerres, mais encore plus après la fin de la guerre d'Algérie, après la fin des années 60, montre qu'en fait, pour les jeunes qui ont fait leur service militaire, ça a été une expérience positive ou négative, individuelle, qui n'a pas forcément modifié en profondeur leur vision du monde, qui n'a pas forcément modifié en profondeur leur manière de se comporter en société, et à la rigueur, heureusement, parce que ce n'est qu'une période de 12 mois, en fait, ou 10 mois après, donc c'est assez normal. Ça a pour beaucoup été une parenthèse, mais ce qu'on constate surtout, c'est que sur le plan collectif, le fait que chaque classe d'âge masculine fasse un service militaire n'a pas eu d'influence sur l'état de la société, sur les grandes évolutions sociopolitiques que la France a connues dans la seconde moitié du XXe siècle.
Quand tu auras fini ton service militaire, tu échangeras des souvenirs avec ton père. Vous parlerez des mêmes filles, des mêmes cuites. Et dans 20 ans, ton fils te racontera la suite. Tout le monde sera content, vous direz c'était le bon temps. Est-ce que c'était chiant, mon adjudant? Petit soldat, va, tu seras caporal, le moral, si tu l'as pas, petit soldat.
Émilie Guillaumin, vous êtes ancienne militaire et écrivaine. Vous avez écrit Féminine, et l'un de vos chapitres s'intitule J'aurais voulu être militaire.
Tout à fait. C'était même le titre initial de mon roman. Et on m'a gentiment soumis l'idée d'un titre un tout petit peu plus commercial. Effectivement, j'aurais voulu être militaire, c'est littéralement le thème de mon premier roman. Féminine, c'est le nom des femmes qu'on donne à l'armée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de guerrières, il n'y a pas de soldates, il y a des féminines. Donc on dit, il y a trois féminines dans la section là-bas, et moi-même j'étais une féminine. Voilà, donc c'est devenu le titre du livre. Et effectivement, il y a tout un chapitre qui traite de cette question de comment une jeune fille citadine, parisienne de 27 ans, qui a fait des études de lettres, qui est journaliste sur Radio Classique, qui passe tous les matins à l'antenne, se retrouve à ramper sous les barbelés, dans la boue, du côté de Brocéliande, voilà.
Mais être militaire, c'était un rêve d'enfance ?
C'était vraiment un rêve, plus qu'un rêve. Alors j'adopte l'idée du rêve, mais il y avait un côté presque obsessionnel venu de l'enfance, puis de l'adolescence, qui est resté de manière diffuse dans mon cerveau jusqu'à 25-27 ans. Donc je n'étais plus ni une enfant ni une adolescence, mais une jeune fille avec un cerveau a priori bien construit et avec toujours cette espèce d'idée derrière la tête que je ne menais pas la vie que je n'aurais dû mener. Et pour moi, ce manquement, cette lacune, cette faille prenait le visage, a toujours pris le visage jusqu'à ce que je saute le pas, de l'armée. Donc c'est un peu curieux, mais il en était ainsi. J'avais vraiment cette espèce de vision très romantique, très romanesque du métier des armes. Et il me semblait, étant donné que j'étais quelqu'un qui ne tenait pas en place, j'étais pas forcément très à l'aise avec ma féminité. J'ai mis du temps et de manière très tardive à accepter que j'étais une femme. Pour moi, la vraie vie, c'était être un homme, en fait, réellement. J'admirais vraiment les récits, alors ça paraît un peu ringard dit comme ça, mais les récits chevaleresques, des personnages de chevaliers, d'espions, de personnes qui va sauver la veuve et l'orphelin, qui a une vie un peu trépidante, et surtout des vies, c'est même pas des vies héroïques, c'est des vies d'action que moi j'associais vraiment au genre masculin. Et moi, ça me... Je sais pas, il y avait quelque chose d'assez galvanisant dans cet effet de groupe, de faire des choses ensemble. Et je devinais, et ça m'a été confirmé par la suite, que voilà, ensemble, on fait des choses que seul, on ne ferait pas. Il y avait la notion de dépassement.
Il y a des films qui vous ont marqué ?
Il y avait toujours comme dénominateur commun... Des personnages, d'ailleurs avec le recul, un peu caricaturaux dans le côté mâle, mais qui, moi, m'attiraient énormément. Je pense que j'étais beaucoup virile dans ma tête. Et c'est d'ailleurs le sujet du livre. C'est la diffraction qui va se passer entre ce que je croyais de moi et la réalité.
Bonsoir. Je suis le lieutenant Schlieffer, bienvenue au 1er RDP. Est-ce qu'il y a des féminines parmi vous ? Il n'y a pas de dortoir mixte ici. Est-ce qu'il y a des filles ?
Oui.
Alors sortez des rangs, mesdemoiselles.
Je suis Jonathan, donc je me suis engagé le 6 mars 2007 au sein du 3e régiment du génie à Charleville-Mézières en tant que spécialiste dans le déminage, donc dans le génie combat. J'y aurais fait 17 ans, 10 opérations à l'extérieur. Et j'aurais commencé tout en bas en tant que soldat et j'aurais fini sergent-chef. Tout petit, comme je pense beaucoup d'enfants, je voulais être pompier. Et après, le métier des armes en soi est venu plus tard. Mais ça a toujours été quelque chose qui m'a animé, oui.
Comment ça se passe pour toi à l'école ?
Alors à l'école, très compliqué. Je suis stéréotype. Hein. C'était vraiment, j'étais total échec scolaire. J'ai arrêté l'école, je crois, je devais avoir à peine 17 ans. J'ai fait que 6 mois en seconde parce que pas de diplôme. On m'avait mis dans une case un petit peu là où il y avait de la place. J'étais pas du tout dans mon élément. J'étais avec des mauvaises fréquentations, donc j'ai tout arrêté. Donc c'est vrai que les un an et demi avant l'armée étaient très compliqués parce que j'étais en échec scolaire, j'allais plus en cours.
T'aurais pu mal tourner ou t'as déjà cette idée d'aller dans l'armée ?
Les mauvaises fréquentations, je les ai eues dès mes 13 ans parce que j'ai eu une enfance assez compliquée et je suis tombé assez jeune entre de mauvaises mains, on va dire, dans les quartiers où j'habitais. Et l'armée a vraiment été un échappatoire qui était nécessaire. C'est vrai que quand tu as 13 ans, tu te retrouves avec des jeunes de 16-20 ans qui sont dans la drogue, qui sont eux aussi en échec scolaire. Au lieu d'aller à l'école le lendemain, ça dormait jusqu'à midi. Le soir, c'était dans des garages, dans des caves, avec de la drogue et tout ce que tu peux imaginer. Donc c'est vrai que c'était pas du tout un environnement sain. Moi, j'avais un père alcoolique qui en est décédé en plus. Donc ma mère était décédée déjà avant, donc j'étais vraiment livré à moi-même, quoi.
Et tu aurais pu commencer à dealer ou à partir dans de mauvaises directions, en fait.
J'y suis passé, hein. J'ai coché cette case malheureusement de drogue, de consommation et de vente un petit peu. Mais heureusement, en parallèle, je me renseignais auprès des CIRFA déjà à l'époque, parce qu'on n'avait pas trop Internet à ce moment-là. Et du coup, ça me permettait aussi d'avoir une petite bulle d'échappatoire. Dans un délai, il fallait que j'attende au moins mes 18 ans. De toute façon, donc.
Dans votre livre, un des personnages dit « c'est simple, il faut avoir un problème pour s'engager dans l'armée ». C'était lequel, le vôtre ?
Alors, c'est très intime comme question. C'était une absence de père, je pense. Enfin, là, je suis très simple dans ma réponse. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que j'avais un père, mais un père très âgé et avec une non-relation. Et pour moi, et j'en ai toujours souffert. Bon, là, il est décédé aujourd'hui, mais c'est toujours un manque, en fait. Et je pense, et en fait, à l'armée, il y a un peu des chiens perdus. C'est un peu l'armée des chiens perdus. Et quand vous discutez, peut-être pas dans les officiers, là, justement, quand vous discutez plutôt avec des grades plus inférieurs, il y a beaucoup ce schéma, en fait, de famille monoparentale ou de père absent et de gens qui ont besoin d'un cadre, en fait. D'un cadre, parce que il y a beaucoup de gens qui signent, mais il y a ça chez les flics, c'est, en fait, si je n'étais pas devenu flic, je serais peut-être devenu délinquant. Si je n'étais pas devenu militaire, peut-être qu'on me retrouverait là aujourd'hui à faire des braquages. Encore une fois, il y a aussi plein de gens équilibrés à l'armée, évidemment, mais il y a un truc de chien perdu sans collier que moi j'avais d'une certaine manière.
Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez l'image. En l'espace de 20 minutes, deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street.
Alors le 11 septembre 2001, moi je suis à Tahiti, j'ai 13 ans, donc avec le décalage horaire, moi je découvre ça le matin. En français, il me semble qu'il était 15h, 16h. Donc au réveil, je me lève, je vois ma mère devant la télé. C'est très grave ce qui se passe, c'est très grave ce qui se passe, c'est très grave ce qui se passe. Bon. Et je vois derrière elle, là, en fond de tableau, la télé allumée, deux tours en feu et une colonne épaisse de fumée blanche qui s'en échappe.
Ouais, je me souviens très bien du 11 septembre 2001. Du coup, j'ai 13 ans. On vient juste d'emménager depuis un mois aux États-Unis. Les États-Unis, c'était un peu ambiance croisade. On a été attaqués, on nous ont attaqués chez nous, ça va pas se passer comme ça, on va y aller, on va tous les évangéliser, quoi.
Je comprends que c'est grave, mais bon, voilà, est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est une attaque, enfin, c'est pas des notions que j'ai à ce moment-là. Je le comprends, en revanche, en arrivant au collège, où les professeurs nous expliquent la gravité et l'enjeu que ça a, le terrorisme, et c'est des mots que je connaissais pas, ou en tout cas auxquels je prêtais pas attention, qui rentrent à ce moment-là dans ma façon de penser.
J'étais sidéré, hein, comme tout le monde, je pense. J'ai compris qu'il se passait quelque chose dans le monde qui serait irréversible. Et puis j'ai découvert, au travers des médias, de tout ce qui s'est dit et tout, qu'il y avait... Il y avait des gens qui nous voulaient vraiment du mal, qui étaient prêts à faire des choses comme ça pour nous exterminer, en fait. C'est comme ça, pour exterminer ce que représente l'Occident. Et moi, je savais en m'engageant que je serais certainement amené à combattre des gens comme ça.
Toi, c'était une des raisons, la défense du pays, de l'engagement. Oh ben oui.
C'est sûr, c'est important de défendre son pays. Son pays, c'est sa maison, quoi. C'est notre nid, hein. À tous, quoi. Ici, en France, c'est important d'aimer son pays. Et de faire des choses, c'est un devoir de citoyen.
Allons, enfants de la patrie,
le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie.
J'aurais rêvé d'être militaire, une série d'Adrien Morat,
réalisé par François Teste. Avec Gadiel, Rémi, colonel Jean Michelin, Bénédicte Chéron, Émilie Guillaumin, Jonathan et Timothée. À suivre, le deuxième épisode, S'engager dans l'armée de terre.